pour les deux aspects de facilité et de difficulté. De difficulté, parce que justement, on est au-delà de toute représentation sensible, et on est vraiment dans le contenu même de la pensée pure. Et le plus facile, parce qu'au fond, c'est le plus proche de nous. C'est le plus proche de cette créativité de l'intelligence, on dirait. L'utilité de la logique concerne le rapport au sujet, pour autant qu'il se donne une certaine formation en vue d'autres buts. La formation au moyen de la logique consiste en ce qu'elle devient experte de la pratique de la pensée, parce que cette science est la pensée de la pensée.
Ça, vous trouvez noétis, noétéros, Aristote. Hein? Vous voyez, la pensée qui définit pour Aristote l'acte pur et qui définit Dieu, vous avez que la logique définit la pensée de la pensée. En fait, le parallélisme est assez... Ben surtout que Hegel ne connaît Aristote, hein, c'est pas du tout. Et là, il y a très nettement le souci de montrer cette espèce de pureté de la logique. Mais dans la mesure où le logique est la forme absolue de la vérité, et plus encore que cela, aussi la vérité pure elle-même, il est tout à fait autre chose que simplement quelque chose d'utile. Donc ne parlons pas de l'utilité de la logique, c'est dégrader la logique. Vous voyez, l'organome qui sait que la logique est utile, sait que la logique devient au contraire le cœur de la pensée. Je crois que c'est vraiment ça qu'il nous montre ici, hein, c'est si on veut saisir. Et on voit très bien l'arrière-fond aristotélicien. C'est ça qui est toujours intéressant. Il y a un arrière-fond aristotélicien. L'organone, la logique, c'est l'utile, parce que c'est un outil. Un outil, c'est avant tout utile. Tandis qu'au contraire, ici, nous essayons de montrer que la logique est au niveau de la vérité, est au niveau de la pensée à l'état le plus pur. La logique, en suivant la forme trois côtés, le côté abstrait ou relevant de l'entendement, le côté dialectique ou négativement rationnel, le côté spéculatif ou positivement rationnel. Donc vous allez retrouver à l'intérieur de la logique toute la structure même de la pensée. Et toute la structure même de la pensée, le côté abstrait, le côté dialectique et le côté spéculatif, nous le retrouvons à l'intérieur de la logique. Parce que justement la logique représente la pensée dans ce cas-là de plus pur. Au fond, la pensée qui se pense elle-même, hein, alors, la pensée qui se pense elle-même, c'est vraiment le côté le plus pur de la pensée. Ça ne peut pas être autrement. Puisque si elle se pense elle-même, elle se purifie en se pensant. Ce n'est pas d'identité. Hein. La pensée de la pensée, le noésis, noéséos, c'est bien l'identité, mais c'est en même temps pour essayer d'exprimer ce qu'il y a de plus pur dans la pensée. Alors, la logique exprime ce qu'il y a de plus pur dans la pensée. Ces trois côtés, page 188. Ces trois côtés ne constituent pas trois parties de la logique. Nous parlerons de trois parties de la logique, nous sommes dans l'utilité. Ces trois côtés ne constituent pas trois parties de la logique, mais sont des moments de tout ce qui a une réalité logique. C'est-à-dire de tout concept ou de tout ce qui est vrai en général. Ils peuvent à leur tour être posés sous le premier moment, l'élément relevant de l'entendement, et par là être maintenus séparés les uns des autres, mais ainsi, ils ne sont pas alors considérés en leur vérité. Donc, dès que vous les considérez comme séparés, vous n'êtes plus dans la vérité, parce que la vérité les implique les uns les autres. Donc là encore, ça montre bien le point de vue de la logique dans toute son étendue, dans toute sa force. Je vous lis encore ce passage, où il nous montre la logique qui présente ces trois aspects et en même temps comment la logique va s'identifier à l'aspect dernier. Page 200. La logique pure, la science pure ou logique se décompose en trois parties, en la logique de l'être, celle de l'essence et celle du concept ou de l'idée. Celle de la pensée immédiate, celle de la pensée réfléchissante, celle de la pensée qui, à partir de la réflexion, est allée en soi et qui,
en sa réalité est auprès de soi-même. Donc vous retrouvez encore dans cette affirmation le fait que la logique devient logique. Hein? La logique se fait. La logique, voyez, la logique se donne à elle-même son propre objet de logique. Exactement comme la pensée se donne à elle-même son propre objet de pensée. Et dans son cheminement logique, qui est la science pure et qui est l'aspect formel de la pensée, nous aboutissons à la pureté la plus grande. Alors, je reprends cette phrase. La science pure ou logique se décompose en trois parties. En la logique de l'être, celle de l'essence, ou celle du concept ou de l'idée. Celle de la pensée immédiate, celle de la pensée réfléchissante, et celle de la pensée qui, à partir de la réflexion, est allée en soi et qui, en sa réalité, est auprès de soi. Donc le mouvement dialectique de la logique. Vous retrouvez à l'intérieur même de la logique le mouvement dialectique. Je ne m'étends pas plus, je crois que nous sommes là en présence, si vous voulez, je crois qu'on pourrait dire le sommet de la logique. Je crois que la logique n'a jamais été autant exaltée que dans Hegel. Je crois que ce serait intéressant d'essayer de réfléchir sur la dialectique du maître et de l'esclave, dialectique qui prend l'organon d'Aristote pour en faire la pensée de la pensée, pour en faire cette exaltation suprême dernière. Vous voyez, et c'est une manière pour nous qui nous aide à comprendre la dialectique hegelienne, de le voir de ce côté-là. On comprend mieux comment cette formalisation, c'est la logique formalise, c'est normal, elle a toujours formalisé. Enfin, comment cette formalisation de la logique va impliquer la formalisation du contenu de la pensée. Et le contenu de la pensée, en dernier lieu, qui veut se formaliser tout le temps, va arriver à cette pureté absolue. Nous avons ensuite, hein, toujours pour essayer de préciser les différentes étapes, la logique particulière de ce que représente celle de Stuart Mill, la logique déductive et inductive. C'est une application. C'est tout à fait autre chose. Hein. Nous sommes dans une perspective toute différente. Dès lors, c'est la logique qui va devenir beaucoup plus une logique très dépendante du nominalisme. Hein. Et la différence entre le nominalisme, ce qu'a fait le nominalisme de la logique, et l'aspect hegelien, c'est presque deux extrêmes. Enfin, si à l'extrême, Aristote, du point de vue de la logique comme organon, il y a quand même aussi cette réduction de la logique au niveau nominaliste de la logique des mots, de la logique des termes, de la logique du langage. C'est quand même un aspect très positif de la logique dans le point de vue nominaliste. On ne voit plus que cet aspect-là, c'est les termes. Eh bien, nous retrouvons ça dans Stuart Mill. À ce point de vue-là, c'est intéressant de voir une logique nominaliste dans toute son application. Alors, la logique, c'est la logique de la preuve, c'est la logique inductive, et puis la logique déductive, c'est la logique de la science. La logique porte sur le réel. Mais il faut voir ce que c'est que le réel. Hein. Un nom est un nom pris à volonté comme une marque qui peut susciter dans notre esprit une pensée semblable à quelques pensées que nous avons eues auparavant et qui étant prononcée devant les autres hommes est pour eux un signe de la pensée qu'avait eue dans l'esprit l'interlocuteur avant qu'il le proférait. C'est dans le chapitre 2, verset 2, dans le système de la logique de Stuart Mill. Donc on voit comment toute la pensée se réfugie dans le nom. Et comment le nom, d'une certaine manière, va être le véhicule du réel. Et là, on est en face du nominalisme en toute sa force. C'est le nominalisme poussé à l'extrême. Donc un nom, je reprends cette phrase parce qu'elle est assez significative, hein. Un nom est un nom pris à volonté comme une marque qui peut susciter dans notre esprit une pensée semblable à quelques pensées que nous avons eues auparavant
et qui étant prononcé devant les autres hommes, est pour eux un signe de la pensée qu'avait eu dans l'esprit l'interlocuteur avant qu'il le proférait. Donc, c'est par là que la pensée se communique. La logique est toujours un objet de communication, hein. Ne l'oublions pas. La logique permet la communication. Aristote avait saisi. Il faut formaliser pour transmettre. Il faut formaliser la pensée pour qu'on puisse la transmettre aux autres. Et c'est pour ça que la logique va permettre de fait l'enseignement, va permettre la communication. Dans la mesure où toute la pensée devient une communication, alors elle va être uniquement le point de vue logique. Alors, elle va être uniquement un point de vue logique dans la mesure où la pensée va elle-même être cette propre dialectique qui se communique, où elle va devenir uniquement au niveau des mots, en ce sens que les mots sont les véhicules qui nous permettent de transmettre notre pensée. Nous ne pouvons pas transmettre notre pensée en dehors des mots. C'est par les mots que nous transmettons notre pensée. Et pour Aristote, les mots se réfèrent à la pensée. Les mots sont des signes de la pensée. Et donc les mots doivent éveiller une pensée qui nous permet d'être en communication avec les autres. Tandis qu'au contraire, dans la pensée du nominalisme, les mots collent à la pensée. Il n'y a plus de concept. Le mot exprime et le fruit directement de la pensée. Alors, c'est à ce moment-là, le mot qui communique la pensée devient elle-même la pensée. Eh bien, on peut voir alors dans cette perspective la grande distinction qu'il considère comme la distinction dominante, la distinction entre les mots généraux et les mots individuels ou singuliers. Et, dit-il, fondamentale, elle est peut-être considérée comme la première grande division des mots. Donc, la division dominante, qui exprime toute sa logique, c'est le point de vue des noms généraux et des noms singuliers individuels. C'est la vieille distinction, l'universel et l'individu, nous le retrouverons, mais pas du tout dans la même perspective, puisque ici c'est identifié au nom. Un nom général est, dans sa définition ordinaire, un nom susceptible d'être appliqué avec vérité et dans le même sens à l'une quelconque d'un nombre indéfini de choses. Donc, le nom général rassemble. Il permet de faire cette union, si vous voulez. Un nom individuel ou singulier est un nom qui ne peut être affirmé avec vérité dans le même sens que d'une seule chose. Donc, les noms généraux et les noms singuliers qui exprime tout simplement l'application de l'universel et le point de vue du singulier, mais appliqué au nom, et qui considère comme la grande distinction. Ainsi, homme, le mot homme, exprime certaines qualités, et quand nous l'attribuons à ces personnes, nous énonçons que toutes possèdent ces qualités. Exactement ce que nous avions vu dans Octave. Le nom exprime une série de qualités, un ensemble de qualités, le nom homme, mais n'exprime plus la nature. Il n'y a plus de nature, l'individu est une collectivité de qualités. L'individu est une collectivité d'accidents. Et alors, le nom universel exprime cet ensemble d'accidents qui se retrouvent vis-à-vis de tel ou tel individu. Tandis qu'au contraire, le nom singulier va montrer l'originalité de l'individu. Vous allez saisir l'originalité de l'individu. Oui, l'aspect de la collectivité et l'aspect de l'originalité. On dit aussi, pour expliquer ce qu'entend, j'exprime un nom général, que c'est le nom d'une classe. C'est intéressant parce que nous retrouvons tout ça dans la logique moderne. Alors, c'est intéressant de le voir dans Swart Mill comme premier aspect. Donc, on dit que ce nom général, que c'est le nom d'une classe. Mais cette expression, convenable en certains cas, est mauvaise comme définition, car elle explique la plus claire des choses par la plus obscure. Donc, il vaut mieux garder le nom général que le point de vue de la classe, parce que le nom général est premier. Alors, la classe est quelque chose de second. Et là, par le point de vue, on ne peut pas exprimer ce qui est plus clair par le point de vue du moins clair. Là, il est vraiment, on voit bien, dans la dépendance même de tout ce que la scolastique donne. C'est que la définition comme telle, pour être une bonne définition, doit toujours être plus claire que les éléments qu'elle contient. Et donc, si je définis le général par le point de vue de la classe, c'est une mauvaise définition. Parce que le nom général est plus clair que le point de vue de la classe. Et donc, c'est une mauvaise définition. Le nom général, dit-il encore, est celui qui peut être attribué à chaque individu d'une multitude. Le nom collectif ne peut pas être attribué à chaque individu séparément, mais seulement à tous pris ensemble. Donc, le nom général et le nom collectif et le nom singulier. Donc, retenez simplement ce point de vue-là que lorsqu'il s'agit de cette logique déductive et inductive, nous retrouvons tout l'aspect de la logique d'Occam, je crois que c'est vraiment l'application de la logique d'Occam, au point de vue des noms. Alors, mettez en opposition les deux logiques de Hegel et cette logique des noms. Il serait intéressant maintenant de situer, et je vous renvoie dans le livre donc, de Mural, c'est l'idée de la sémiologie, situer exactement ce que représente la logique dans Husserl, la logique prise comme absolue, et d'essayer de comprendre le parallélisme entre le point de vue de la logique et le point de vue de la sémiologie. C'est encore autre chose. Ce n'est pas la même chose que dans le point de vue de Hegel, bien qu'il y ait une très grande dépendance, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du tout le point de vue non plus du nominalisme. Il y a comme, j'allais presque dire, une espèce de synthèse des deux. Vous allez voir, il y a les deux extrêmes, on voit bien deux extrêmes, la logique hegelienne et la logique histoire-ville, qui représentent deux extrêmes dans la logique, et ici, on voit quelque chose de tout à fait différent, un essai de saisir à l'intérieur même de ce que représente la sémiologie, de saisir ce que représente le contenu logique. Je vous donne quelques aspects simplement. Donc, Husserl souligne la fonction par excellence de la logique. Et cependant, il n'hésite pas de dire au terme, ce qui montre bien que la logique a comme différents moments. Il y aura des aspects différents dans la logique. À un moment donné, la logique va apparaître comme normative. Et au terme, il le dit explicitement que la logique n'est pas uniquement normative, elle doit être, au contraire, ce qui est au cœur de la pensée, et elle doit exprimer quelque chose de dans la réduction elle-même, elle doit être ce qu'il y a de plus formel. C'est ainsi que la logique formelle objective, dans le livre de Mural, page 231, c'est ainsi que la logique formelle objective est mise en question et la genèse de son sens explicité. Mais il ne faut pas oublier que la logique est la science formellement considérée. Donc, elle n'est pas normative dans le sens qu'elle est uniquement extrinsèque, mais elle est vraiment quelque chose qui va exprimer le point de vue le plus formel de la pensée elle-même, de la science elle-même. Alors, toute la sémiologie, c'est la recherche, justement, de la pensée de la science. C'est la science dans son exemplarité. C'est-à-dire la science qui se fait et qui n'est pas encore parfaite. Une science qui est perpétuellement devenue et vers laquelle on tend. On tend vers, je dirais, un prototype de la science. Mais cette fonction pratique de la logique en tant que normative, elle est secondaire. En soi, la logique n'est pas normative, mais égale à toutes les autres sciences, une science dans le sens propre du terme, qui est celui de la raison purement théorique qui se manifeste. Donc, c'est la formalisation de la science. Mais la formalisation de la science, qui est encore la science la plus pure. Il faut retrouver quelque chose qui est quand même l'intuition hegelienne qu'on retrouve là au cœur. Cependant, pas la même chose du tout. La différence de Husserl, c'est que la science dans toute sa formalisation et dans toute sa pureté, n'est jamais faite. Donc il y a un aspect génétique qui est maintenu dans la phénoménologie, alors que cet aspect génétique dans la pensée hegelienne, j'allais presque dire, il est comme dépassé. Il est présent au terme dans l'idée, il est donné. Tandis que dans la théologie, on est toujours en face d'une espèce de devenir. Donc en soi, la logique n'est pas normative, mais égale. De toutes les autres sciences, elle est cette science formellement considérée. La logique est la science formellement considérée, la science en général, la science de la science, forme et norme de toutes les sciences. Mais pas normative d'une façon pratique, mais l'aspect formel de toutes les sciences. La logique n'est donc pas un cas particulier parmi les autres sciences, elle est ce qui sait que les sciences sont des sciences. Elle est la science formelle par excellence, et cette formalité se manifeste sous deux rapports. Donc, forme des sciences, formalité de la science. En tant que formelle objective, la logique norme d'une manière objective exemplaire la science en général. Et c'est cette normation de la science par la logique, de la logique factice par la science idéale, du fait par l'idée, qui garantit à la science son authenticité. En tant que formelle subjective, transcendantale, elle norme d'une manière subjective exemplaire, puisqu'elle élucide la structure universelle de l'intentionnalité, que chaque objectivité concrétisera réellement par la suite. La logique est donc la science formelle, tant du point de vue analytique que synthétique, objective que subjective. Elle est normative, soit objectivement, soit subjectivement, car elle est la théorie universelle de la science. Cependant, du point de vue subjectif, cette primauté se marque d'une manière plus frappante encore, car une science particulière peut être science valable sans être justifiée transcendantalement. La logique qui est science de la science, ne peut être logique valable sans se prolonger en une thématique subjective qui clarifie ses implications intentionnelles. Vous voyez comme c'est complexe, hein, et que ce n'est pas si facile à comprendre. Je vais simplement reprendre le point de départ parce que je crois que c'est là l'intérêt. Et le reste me semble quelque chose d'un peu secondaire. Mais ce qui me semble le plus important, c'est cet effort que fait Mural pour essayer de saisir au terme, le rapport de la logique et de la science, dans cette perspective théologique, où on essaie de saisir comment la logique va être l'aspect, si vous voulez, le plus précis de cette science qui se fait et qui tend vers l'exemplarité. C'est l'exemplarité qui au fond, est comme l'idéal vers lequel on tend. Alors, la logique va tendre vers cette espèce de formalité. La logique n'est pas un cas particulier parmi les autres sciences. Elle est ce qui fait que les sciences sont des sciences, ce par quoi la science est science. Ce par quoi la science est science. Hein? Le principe de formalisation de la science. Si la science est une connaissance formelle, la logique va être cette formalisation de la science. Alors, c'est ça qu'on va rechercher à travers tout. Elle est la science formelle par excellence. Et cette formalité se manifeste sous deux rapports. Alors, on va voir les deux rapports de cette formalité. En tant que formelle objective et en tant que formelle subjective. Donc, j'essaie de saisir les deux formalités objectives et subjectives. Et toujours pour intégrer l'aspect de la matière dans la formalité, si vous pensez à Kant. Essayer de dépasser la division que faisait Kant, exactement ce que nous avions vu dans Hegel, dépasser la division que fait Kant pour retrouver une unité formelle. Alors, il y a le désir de retrouver cette unité formelle à l'intérieur même de la logique.
Alors, on prend en tant que formelle objective la logique norme d'une manière objective exemplaire. C'est objective exemplaire. Donc, ce n'est pas une objectivité donnée. C'est une objectivité qui se cherche. C'est ça le point de vue exemplaire. Hein. C'est l'objectivité qui se cherche, c'est-à-dire une objectivité vers laquelle on tend. Donc, la logique norme d'une manière objective exemplaire, la science en général, et c'est cette normation de la science par la logique, de la science factice par la science idéale, la science idéale qui est toujours présente et qui n'est jamais donnée, elle est toujours présente dans la science, on ne ferait pas de science si elle n'est pas la science idéale. Parce que la science n'est jamais parfaite. Alors, la science idéale est présente dans la science, mais elle n'est pas donnée, parce que si elle était donnée, elle ne serait plus la science idéale. Elle est ce vers la quoi on tend, cette espèce d'exemplarité vers laquelle on tend. Et la logique va, en quelque sorte, formaliser cette exemplarité. Elle va la rendre présente. Et alors, elle permet de cette manière de ponctuer le devenir de la science. Donc la logique norme d'une manière objective, exemplaire, la science en général, et c'est cette normation de la science par la logique, de la science factice par la science idéale, du fait par l'idée, qui garantit à la science son authenticité. La science est authentique par cette formalisation, et grâce à cette formalisation. Et cette formalisation est donnée toujours sous cette forme objective exemplaire. Donc on n'atteint jamais, on ne possède jamais. En tant que formelle subjective, transcendantale, elle norme d'une manière subjective exemplaire, puisqu'elle élucide la structure universelle de l'intentionnalité. Que chaque objectivité concrétisera réellement par la suite. La logique est donc la science formelle, tant du point de vue analytique que synthétique, objectif que subjective. Elle est normative, soit objectivement, soit subjectivement, car elle est la théorie universelle de la science. Donc, théorie universelle de la science dans son exemplarité, dans ce qui domine la science. Parce que si elle n'était pas justement dans cette exemplarité, elle ne dominerait pas la science. Vous avez donc la multiplicité des sciences qui sont faites, mais il y a une recherche incessante dans la science. Qu'est-ce qui explique cette recherche incessante de la science? C'est cet idéal de la science qui est la logique. La logique, ce que parfois la science est science. Alors c'est comme l'idéal de la logique, c'est comme l'idéal de la science présent dans la science. Et c'est cet aspect, l'aspect le plus formel de la science, et qui est à la fois présent et qui demande tout le temps ce mouvement de la science d'aller plus loin. Donc la logique est donc la science formelle, tant du point de vue analytique que synthétique, objective que subjective. Elle est normative, soit objectivement, soit subjectivement, car elle est la théorie universelle de la science. Cependant, du point de vue subjectif, cette primauté se marque d'une manière plus frappante encore, car une science particulière peut être science valable sans être justifiée transcendantalement. La logique, qui est science de la science, ne peut être logique valable sans se prolonger en une thématique subjective qui clarifie ses implications intentionnelles. La logique est donc au premier chef autocritique constitutive, comme elle est justement le fait qu'elle définit le désir de la science de la science. Elle est donc critique transcendantale de la science en général. Donc vous voyez ce qu'il y a de particulier, si on veut essayer de saisir ce qu'il y a de particulier, je sais que ça reste très très, très difficile à bien saisir. Hein. C'est, je crois, ce qu'il veut exprimer, c'est le point de vue de cette causalité exemplaire qui est au cœur de toute la phénoménologie. Le mouvement interne de la phénoménologie implique une recherche d'un idéal.
On voit très bien que les dernières œuvres, pas, de Husserl s'étendent vers la valeur absolue. La valeur absolue qui, de fait, donne la signification profonde et dernière à toute la phénoménologie. Dans les inédits d'Husserl, c'est dit de façon très nette. Donc, ce qui commence toute la phénoménologie husserlienne, c'est ce point de vue de l'exemplarité. Cette exemplarité, où est-elle donnée? Elle est donnée dans la science. Elle est présente dans la science et elle explique comment la science se dépasse tout le temps. Le dépassement de la science par la science, qui fait que la science est perpétuellement en devenir et qu'elle essaie toujours d'avancer, c'est qu'il y a un idéal présent dans la science. Quel est cet idéal? C'est le point de vue de la logique, qui exprime la formalisation de la science toujours plus loin. Alors, je crois que c'est vraiment ceci qui montre d'une certaine manière une transposition de la logique, non plus comme Hegel à l'intérieur même du contenu de la pensée, mais comme un dépassement de la pensée. Un dépassement de la pensée. La logique exprime un dépassement de la pensée. Ce n'est pas la science. Et comme un peu le principe exprime le dépassement de la réalité dont il est principe, c'est le dépassement. Là, la logique va exprimer la science de la science. Donc elle va exprimer un dépassement de la science. Et elle va exprimer par le fait même l'idéal de la science présent dans la science, mais que la science recherche tout le temps et qu'elle n'arrive jamais à atteindre. Alors, sous ce point de vue-là, on peut dire que c'est aussi une exaltation de la science et une exaltation de la logique qui va très loin. Mais c'est différent de la pensée hegelienne. C'est pas de la même chose. Et je crois que c'est la causalité exemplaire qui nous permet de le comprendre. Un dernier mot, pour terminer, ce serait de regarder tout le problème de la logique mathématique. Alors là, je n'entre pas dedans. Je vous renvoie au cours du père Borinsky sur la logique formelle. Je vais simplement, ici, lire les différents aspects où il définit la logique formelle pour que nous essayions de mieux préciser la position de la logique formelle par rapport, non pas à la logique husserlienne, non pas par rapport à la logique de Hegel, mais par rapport à la logique aristotélicienne. La logique mathématique, c'est donc dans le cours du père Borinsky sur le point de vue de la logique. La logique mathématique, dite aussi logique symbolique, logistique ou logique théorique, est la forme actuelle de la logique formelle. Alors, souligné, hein, actuelle. Enfin, c'est-à-dire, au fond, c'est la logique actuelle qui s'impose. Elle est norme de la logique. Je crois que c'est ça qu'il veut dire. La logique, le terme logistique, souvent utilisé comme péjoratif, devrait être évité. Il est notamment employé par certains pour suggérer qu'il existe, en dehors de la logique mathématique, d'autres formes légitimes de la logique formelle. Donc, peu importe, laissons tomber logistique, qu'il n'aime pas beaucoup. La logique formelle contemporaine est appelée mathématique, non pas à cause de son contenu, mais de son origine. Précisons, c'est pas le contenu. Évidemment, c'est pas les mathématiques qui sont comptées dedans. Là-dessus, je vous invite à lire, quand vous aurez le temps, dans Meyerson, sur le cheminement de la pensée, il y a à la fin du cheminement de la pensée, toute une série de textes très intéressants sur la logique mathématique, sur les jugements différents des mathématiciens sur la logique mathématique. C'est toujours intéressant. Alors, ce qui montre bien qu'il ne faut surtout pas confondre la logique mathématique et les mathématiques. Là, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait autre chose. Il continue. C'est toujours pour essayer de préciser la définition de la logique mathématique. Hein. C'est ça qui m'intéresse ici. Voir comment la logique mathématique se définit elle-même. Vous voyez ? Comment va-t-elle se définir elle-même ? Il existe de nombreux systèmes de logique mathématique. Ces systèmes ne peuvent pas être confondus avec la logique formelle contemporaine. Mathématique dans son ensemble. La logique mathématique dans son ensemble comprend, on peut
comprend ou peut comprendre toutes les théories formelles développées au cours des périodes précédentes. Donc elle va les assumer toutes. Premièrement, la syllogistique aristotélicienne, assertorique, la logistique modale, la théorie temporelle de la modalité ont été toutes traitées avec succès dans la logique mathématique. C'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer qui donne la logique mathématique. Donc toute la logique précédente est donnée dedans. La logique mathématique contemporaine comprend dans son ensemble beaucoup plus de théorèmes et une présentation de beaucoup plus rigoureuse que toutes les formes plus anciennes de la logique formelle. Donc autrement dit, nous sommes là au sommet de la logique formelle. Ce qui est du reste très vrai, si je regarde le point de vue de la logique mathématique ou de la logique formelle, vu par rapport à ce que représentent, si vous voulez, les diverses formes de raisonnement. Il est bien évident que là, il y a un développement extraordinaire de toutes les possibilités de développement. Et je crois que c'est ça qui intéresse la logique mathématique avant tout. Toutes les conversations que j'ai eues avec le père Wawrinski là-dessus, ou les confrontations par rapport à la logique mathématique, reviennent toujours à cela. C'est savoir quelle est exactement où se situe exactement la logique mathématique. Je crois que la logique mathématique, nous pourrions dire, au-delà de ce que le père Wawrinski dit ici, parce que c'est purement descriptif ce qu'il dit là, on pourrait préciser que la logique mathématique, c'est la logique du possible, ou c'est la logique des possibles. Ce n'est pas du tout la logique de l'attribution. C'est là la grosse différence avec la logique d'Aristote. Ce n'est pas une logique donc qui présuppose une philosophie. Et le père Wawrinski aime de le dire, la logique mathématique a l'immense avantage, c'est qu'elle peut s'appliquer aussi bien à une philosophie réaliste qu'à une philosophie idéaliste. Elle peut s'appliquer à tout. Donc elle fait une synthèse formelle pour essayer de prendre tous les différents aspects. Donc c'est une logique du possible, et par le fait même, c'est une logique de la relation. Je ne crois pas qu'elle ne s'engage pas plus que la relation. C'est du reste normal. Si c'est une logique du possible, elle ne peut pas aller plus loin que la relation. Parce que le possible se définit par une relation. Et donc, c'est une logique du possible, de la relation. Alors, par le fait même, nous comprenons comment cette formalisation, qui peut se faire en logique mathématique, est une formalisation qui va se séparer de tout contenu de la pensée. C'est uniquement les fonctions du raisonnement qu'on regarde. Et je crois que c'est l'intérêt de la logique mathématique, si on veut situer exactement où ça se situe, c'est le point de vue des fonctions du raisonnement. Ce n'est pas une logique du périherménéas, c'est une logique qui prend uniquement les différentes formes, les différentes manières dont le point de vue de l'intelligence peut formaliser ses raisonnements. Et alors, à ce point de vue-là, ce sera une logique symbolique. Parce qu'on essaiera justement de formaliser le plus possible, mais pas formaliser du tout comme la manière de Husserl. C'est pas du tout la même formalisation. Alors, c'est là où ce serait intéressant de voir la différence entre la formalisation husserlienne, la formalisation hegelienne et la formalisation de la symbolique mathématique. Nous avons en face de trois aspects formels où on emploie le même mot pour employer des choses très différentes. Alors, on y reviendra peut-être sur cette question, cette formalisation différente de la logique mathématique, de la logique husserlienne et de la logique hegelienne quand nous aurons essayé de préciser ce que représente l'universel.
Toujours dans l'introduction, après avoir essayé de voir rapidement comment la logique prenait des significations différentes et comment le point de vue de la logique formelle spécialement, ce serait ça qui serait intéressant à préciser. Ce serait très intéressant de bien voir la manière dont la logique formelle a pris des significations différentes. Je ne veux pas le faire ici parce que c'est pour ceux qui commencent un petit peu
petit peu gênant, mais dans un problème de critique, vous voyez, je crois qu'il y aurait là un lieu extrêmement intéressant, au point de vue philosophique, d'essayer, c'est facile en même temps, c'est pas tellement difficile à faire, mais ce serait extrêmement intéressant, parce que la logique, plus on fréquente la logique, plus on voit que la logique, c'est vraiment le lieu de la manifestation. C'est le lieu où l'intelligence s'exprime, si vous voulez. Le lieu de la pensée philosophique et métaphysique, elle est cachée. Quel est votre degré métaphysique, hein? C'est pas en passant un examen métaphysique qu'on sort. Et vous ne le saurez pas, non. Vous pouvez passer des licences, des doctorats, sans avoir rien compris à la métaphysique. Même en faisant des doctorats sur la métaphysique. Ça fait mieux. C'est quelque chose qui reste caché, secret. On le voit à la vitalité de l'intelligence. Moi, je crois que c'est... On juge l'arbre à ses fruits. Et au fond, c'est une question de vitalité de l'intelligence. Si la métaphysique existe, elle doit toucher ce qui est le plus vital à l'intelligence. Et la logique, c'est la manifestation. Parce que je crois que plus l'intelligence creuse, plus elle voit mieux le partage entre la philosophie et la logique. Il y a un moment donné où il y a une confusion entre les deux. Très curieux, ça. Et cette confusion entre les deux, alors est-ce que ça n'aboutit pas à une stérilité d'intelligence? Est-ce qu'à ce moment-là, l'intelligence ne se perd pas uniquement dans le point de vue de la raison et n'est plus dans l'ordre de l'efficacité? Parce que je crois que plus l'intelligence est vitale, plus elle voit la différence entre la logique et la vie de l'intelligence. Parce que la logique, ce n'est pas la vie de l'intelligence. C'est la manifestation. Vous voyez, au point de vue, autrement dit, je prends le problème d'une autre manière, parce que c'est aussi intéressant. Pour les biologistes, la vie, la vie peut se repérer dans les manifestations de la vie. Pour le philosophe, ce qu'il recherche, c'est la source de la vie. Alors vous avez deux sortes de théologies, des théologies qui se servent de la philosophie, qui disent l'Église se manifeste dans l'aspect périphérique. L'Église se manifeste dans ce qu'elle a de plus intérieur, ou plus exactement, vit dans ce qu'elle a de plus intérieur. L'Église vit dans la périphérie, l'Église vit dans ce qu'elle a de plus intérieur. Vous avez deux conceptions. La vie se manifeste dans l'aspect périphérique, la vie est elle-même dans la source. Eh bien, je crois qu'on pourrait dire quelque chose de semblable entre le point de vue philosophique et le point de vue logique. La logique, c'est toujours la manifestation de la vie de l'intelligence. Alors, le jour où on confond manifestation et vie profonde de l'intelligence, il y a un arrêt, forcément. Il ne peut pas être autrement. On est comme dans une espèce d'impasse. Alors, d'autre part, donc ça c'est la première chose, d'autre part, c'est pour voir un peu le fruit, n'est-ce pas, de la petite enquête que nous avons faite. D'autre part, voir ce fait que la logique se formalise toujours plus. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il un besoin dans la logique de se formaliser? C'est quand même très curieux, ça. Et ça, c'est propre à la logique. Vous n'allez pas parler d'une métaphysique qui se formalise de plus en plus. Oui, on pourra dire ça, elle se précise, mais on ne peut pas dire. Au contraire, la métaphysique, c'est l'ontologie fondamentale. Vous voyez le mouvement inverse. On essaie toujours de saisir ce qu'il y a de fondamental en ontologie, tandis qu'en logique, l'aspect formel. Alors, pourquoi le mouvement profond de la logique est-il toujours de se formaliser? Alors, je crois, je pose un point d'interrogation, je crois que c'est parce que la logique naît avec l'abstraction. Et que le besoin de la formalisation, c'est le besoin de l'abstraction. L'intelligence a besoin d'abstraire. Elle ne le dit pas. Alors elle dit formaliser, ça fait mieux. Mais en réalité, c'est l'abstraction. Vous abstrayez toujours plus, le plus loin possible, pour formaliser. Parce que grâce à l'abstraction, vous pouvez formaliser. L'abstraction laisse tomber. Alors voyez la distinction entre matière et forme, cette première distinction qui est fondamentale à la vie de l'intelligence, qui est première dans la vie de l'intelligence, et qui fait que le problème de l'art, c'est d'unir. Une œuvre d'art est parfaite quand il y a l'unité entre la matière et la forme. Quand la forme apparaît comme inséparable de la matière. Quand la forme semble claquer, vous savez, on voit que ça ne va pas. il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la forme est plaquée de l'extérieur. Alors qu'au contraire, lorsque la forme, l'expression jaillit de l'intérieur et semble vraiment comme s'imposer en fonction même de la matière, on ne peut plus distinguer les deux. Impossible de distinguer les deux. Vous avez vraiment l'œuvre d'art, là. L'universel rejoint le singulier. Hein. L'universel rejoint le singulier. Il y a une unité entre les deux. Et c'est le propre de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art a toujours quelque chose d'universel et toujours quelque chose de singulier. Elle s'impose comme quelque chose de singulier, elle s'impose en même temps quelque chose, comme quelque chose d'universel. Alors, c'est important à voir que dans l'œuvre d'art, il y a au contraire toujours cette unité. Quand vous parlez de la logique, vous cherchez au contraire à vous séparer de la matière formalisée. Vous voyez, l'art des arts. L'aspect formel qui provient de l'abstraction. Et je crois que c'est ça qui explique comment il y a cette formalisation. Et c'est pour ça que de regarder la logique formelle serait très intéressante pour nous demander quelles sont les diverses manières dont l'intelligence peut abstraire. Et je crois qu'au point de vue critique, les diverses manières de concevoir la logique formelle correspondraient aux diverses manières d'abstraire. Et la logique formelle dans Husserl, la logique formelle en mathématiques, la logique formelle chez Hegel, la logique formelle chez Kant, la logique formelle telle que les scolastiques l'appellent, c'est différent. Vous mettez dans le contenu même quelque chose de différent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des types d'abstractions différentes. Je n'insiste pas plus. Voyons tout de suite après l'objet propre de la logique, c'est-à-dire ce qui spécifie la connaissance logique. Alors c'est encore une réflexion critique, c'est-à-dire le point de vue de l'être de raison. Ici, je m'en réfère directement à saint Thomas sur le point de vue de l'ens rationis. Nous l'avons déjà vu, nous allons faire une petite étude de l'ens rationis. Je crois que c'est très intéressant. C'est très important. Quand vous donnerez assez, vous me le direz, signal d'alarme, et on passera au sujet suivant. Parce que c'est vrai, c'est difficile. Je vous renvoie une petite étude que j'ai faite récemment. Donc, l'originalité de l'ens rationis dans la philosophie de saint Thomas. C'est pas parfait, il y avait beaucoup d'autres choses à dire. Mais c'est simplement une indication. Ça a paru donc dans la revue de l'Angélique de Rome. En 1975, page 91 et suivante. Alors, je me réfère à ça, puisque c'est tout récent. Et il faudrait ajouter à cette étude, puisque dès qu'on a terminé quelque chose, on voit que c'est imparfait, il faudrait ajouter à cette étude, alors, tout un autre aspect qui serait très intéressant, c'est de voir l'origine de l'instrationnisme chez saint Thomas. Il y a un étudiant qui fait ça comme mémoire de l'histoire. Quand il paraîtra, on pourra le mettre. C'est de voir comment l'instrationniste apparaît dans le commentaire des sentences. Moi, j'ai pris plutôt l'ultime moment de la pensée de saint Thomas. Parce que ce qui m'intéressait, c'est de voir l'instrationniste chez saint Thomas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment apparaît l'instrationniste dans saint Thomas. Alors, c'est les commentaires des sentences. Je pourrais vous donner, ce n'est pas ici dedans, mais je pourrais vous donner les différentes références. Les commentaires des sentences, c'est l'œuvre première de saint Thomas. Alors c'est intéressant parce que saint Thomas a l'air de dire dans le commentaire des sentences que l'instrationnisme vient d'Averroès. En réalité, si vous regardez attentivement, vous voyez que l'instrationnisme n'est pas des Arabes. Autant qu'on information jusque maintenant me peut me interroger. Ceux qui sont dans le monde de la philosophie arabe aujourd'hui, qui ont fait des thèses sur Avicenne et Averroès, qu'est-ce qu'il y a dans le monde arabe, c'est intéressant à voir, c'est le domaine de l'intention. Alors voyez, ce qu'a fait saint Thomas, et Albert Legrand n'a pas infractionniste. Donc le terme infractionniste est vraiment original à saint Thomas. C'est intéressant à voir ça. C'est le passage de l'intention à infractionniste. Alors, l'article que Tonici ne le montre pas, mais j'en avais l'intuition et ça se confirme. Alors, ça m'intéresse de voir que, de fait, c'est vraiment l'originalité de saint Thomas d'avoir montré que la logique, c'est infractionniste. C'est intéressant parce que ça permet de montrer que, pour saint Thomas, la logique s'enracine profondément dans notre conception de l'être. Je crois que c'est ça que saint Thomas veut faire comprendre. voyez.
C'est ça que je veux faire comprendre, c'est que c'est pas.
Il pourrait dire, hein, il pourrait dire uniquement relation de raison. Intention, c'est une relation. Alors vous voyez, relation de raison. Quand il dit elle, pour Saint Thomas, elle, c'est au-delà de la relation. De fait, elle fratrie, c'est une relation de raison. Je suis tout à fait d'accord. Elle fratrie, nous allons voir, c'est une relation de raison. C'est-à-dire, infratellis, c'est une relation de raison. Infratellis, ce n'est pas une substance de raison. Ce n'est pas une qualité de raison. C'est une relation de raison. Mais il éprouve le besoin de dire elle pour montrer l'enracinement de l'être de raison dans l'être. Et ça, je crois la raison. Autrement, il resterait tout simplement sur le mot intention, parce qu'il est classique. Saint Thomas n'invente pas des mots comme ça pour le plaisir d'inventer des mots. C'est très curieux. C'est très très rare. Ordinairement, quand un mot lui est donné par la tradition, il le garde. Il ne cherche pas l'originalité pour l'originalité. S'il était de notre époque, il ferait ça. Mais de son époque, ce n'est pas du tout son souci. Son souci, c'est d'essayer d'entrer pleinement dans la tradition, mais de la préciser. Quand il précise un terme, ça prouve qu'il y a quelque chose derrière. Or, il y a un terme qu'il a précisé ici, il n'y en a pas beaucoup que Saint Thomas a précisé comme ça. C'est infraction. C'est peut-être même le terme le plus explicite qu'il a précisé. Il y a infractionnisme et la convertibilité des transcendants. C'est très très curieux. Ce sont deux aspects très importants où on voit que là, il y a l'originalité très très nette de la pensée de Saint Thomas. Alors on pourrait ajouter le point de vue de la bonté. Parce que ça c'est sûr que la convertibilité, c'est de montrer que le bien est convertible avec l'être. Puisque vous savez que chez Albert le Grand, donc juste maître de Saint Thomas, on ne pouvait pas dire convertibilité de l'être et du bien. Albert le Grand dit toujours convertibilité de l'être et de l'un, ça c'est les philosophes. Le point de vue du bien, c'est le point de vue de la tradition des saints, Saint Augustin. Donc Augustin, Albert le Grand considère qu'on ne peut pas relier bien et être. Parce qu'il y a d'une part les philosophes, d'autre part la tradition chrétienne. Saint Thomas, lui, va dépasser ce point de vue d'Albert le Grand et va montrer qu'il y a convertibilité entre l'être et le bien. C'est au fond quelque chose de très, très, très significatif. Alors c'est intéressant parce que nous avons là les deux tensions extrêmes de l'être chez Saint Thomas, être rationnel et convertible avec bonheur. Les deux extrêmes, hein. Et ça c'est typiquement de la pensée de Saint Thomas. D'avoir précisé N fratellis du côté et N convertible avec le bien. Alors, vous avez là, je crois, les deux aspects où nous voyons comment Saint Thomas va préciser une compréhension plus profonde de la ratio enti, en disant que la ratio enti est convertible avec la ratio voli. Et une extension de l'être par le point de vue de l'être rationnel. Autrement dit, hein, nous sommes ici en face de la ratio.
Ratio entis, hein, difficile à traduire. Qu'est-ce que c'est que ratio entis, hein? Petit à petit, je ne veux pas que vous ayez trop vite une traduction pour que vous arriviez vous-même à comprendre ce que c'est que ratio entis. Le passage du logos à la ratio et puis comprendre. Alors, mais c'est toujours contenu intelligible. Il faut toujours mettre contenu intelligible dans la ratio. Alors vous avez ici le point de vue de la compréhension et ici le point de vue de l'extension. Et les deux aspects ultimes, Saint Thomas tend la ratio ici, du côté de la compréhension qui rejoint le bien, du côté de l'extension qui rejoint la relation de raison. C'est assez étonnant comme point de vue éventable, si vous voulez. Donc, alors essayons d'entrer dans ce problème de... du point de vue de la ratio entis. Il y a le point de vue sur lequel Saint Thomas insiste toujours. Je prends ici la pensée de Saint Thomas. Je crois que nous pouvons, par rapport à ce qu'il nous dit sur la ratio entis,
si nous comprenons bien, tout ça demeure en dehors du temps, d'une certaine manière.
Nous sommes au niveau de l'être, nous sommes au niveau des relations de l'intelligence et de l'être, donc tout ça demeure actuel. Ça demeure actuel. Si vous lisez certains traités de la phénoménologie d'aujourd'hui, vous pouvez vous reposer le même problème, exactement. Hein. C'est des choses qui sont très très actuelles.
Alors, première distinction que fait saint Thomas tout le temps,
c'est entre haine naturée, je vous l'ai déjà dit, je la reprends, et haine fractionnée. Je crois que c'est la première chose que nous devons comprendre. Haine naturée, haine fractionnée.
Ce sont encore deux expressions typiquement de saint Thomas. Donc je vous renvoie au lieu que je vous avais déjà donné, Métaphysique, livre 4e, chapitre 4e, numéro 574, dans saint Thomas, l'édition Marietti. Vous pouvez regarder également au 7e livre de Métaphysique, numéro 1245. Vous avez tout ça dans ce petit fascicule. Alors, j'essaie de comprendre. Première division de saint Thomas, entre ens naturae et ens rationis. Comprenons bien que ce n'est pas l'ens qui se divise en ens naturae et ens rationis. Ce serait très faux de comprendre comme ça. De dire, voilà, la connade, ens. Alors, l'ens est le genre de naturae et rationis. Intéressant, vous allez voir à quoi vous aboutiriez à tout ça. C'est très curieux de faire l'espèce de synthèse entre ens naturae et ens rationis. Synthèse générique, c'est dire l'aspect du fondement. Alors on diviserait l'être en ens rationis. C'est pas ça du tout chez saint Thomas. Hein. Supprimer ce schème. Il faut se le poser pour justement l'éviter. N'est-ce pas ? Parce que dès que nous divisons, nous pensons toujours à la division de la tarte. Hein. Faut pas l'oublier. La tarte, c'est le point de vue du tout. Premier, et je divise en deux. Toute division, c'est ça. Alors, on divise un tout. Le tout, c'est le genre que nous divisons. Le tout initial. Alors, il y a deux parties. Ens naturae, ens narrationis. Et alors, il y aurait comme un tout initial, qui serait ens. Qui serait une mixture des deux. Tu vois ? Que si je divise, c'est pour qu'il y ait plus de clarté. Si je divise, c'est pour avoir une précision nouvelle. Un tout confus. Alors, un tout générique. L'être n'est pas un genre. L'être n'est pas un genre. Puisque l'être ne peut pas se mettre dans un genre, et que saint Thomas reprend cette formule Aristote, ne comprenons pas de cette manière-là, être naturel, être rationnel. Je dis qu'il ne faut pas le comprendre comme ça, parce que des quantités de scolastiques ont compris comme ça. Hein. Alors, il faut quand même faire attention. Il faut éviter cette chose, une notion qui est tout à fait fausse. Quand saint Thomas dit « ens naturae et ens rationis », pour saint Thomas, il y a un ordre entre les deux. Donc il n'y a pas un premier fondamental qui divise, il y a un ordre entre les deux, parce que c'est une notion analogique. Dès que nous sommes en phase d'une notion analogique, elle implique tout de suite un ordre. Elle implique quelque chose qui est antérieur et quelque chose qui est postérieur. Quand je suis en phase d'une notion générique, il y a quelque chose de fondamental qui est générique au point de départ. Quand je suis en fond. En face d'une notion univoque. Hein. Alors, ens naturae est premier, ens rationis est second. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre ens rationis en dehors de ens naturae. Tandis que je comprends ens naturae indépendamment de ens rationis. Il faut saisir ça tout de suite. Parce que ce serait très différent si je ne concevais l'ens rationis, l'ens naturae qu'en fonction de l'être rationis. Il y a tout de suite là une division fondamentale. Qu'est-ce que veut dire ens naturae ? Ens naturae, c'est la réalité physique qui existe. Vous êtes des ens naturae. C'est ça. La vache est un ens naturae. La petite oiseau est un ens naturae. La neige est un ens naturae. C'est ça. C'est pas ens rationnel, c'est ens naturae. Donc c'est tout le monde physique. Tout le monde physique, c'est ens naturae. C'est la réalité physique qui existe, la réalité sensible que je peux constater qui existe. Donc c'est très très vaste. Toute la philosophie étudie l'ens naturae. Toute la philosophie. Parce qu'elle étudie toujours l'être réel. Alors on pourrait dire, hein, l'être réel. Je crois que ça correspondrait assez bien l'ens naturae. L'être réel. Pour saint Thomas, l'être réel c'est l'ens naturae. C'est-à-dire l'être qui existe en premier lieu. L'être qui existe en premier lieu et l'être qui est comme une donnée pour moi. L'être naturé n'est pas le fruit de mon intelligence. C'est quelque chose qui s'impose. Alors ne disons pas a priori. Oui, c'est pas un a priori. C'est quelque chose qui s'impose à moi comme une donnée, comme un fait, ce qui existe. Et le rationalisme, au contraire, c'est ce qui apparaît à partir de l'intelligence en acte. C'est-à-dire à partir de la connaissance. Est-ce que la durée se donne à partir de la connaissance? C'est là la très grosse différence entre Ens Naturae et Ens Ratione. C'est quelque chose qui apparaît en fonction de la connaissance. Dès que la connaissance connaît, elle transforme. Dès que vous connaissez quelque chose, vous le transformez. Ça ne peut pas être autrement, puisque vous le transformez en fonction de ce que vous connaissez. Alors, Ens Ratione, c'est justement toujours quelque chose qui fait appel à l'intervention de l'intelligence. Donc, ce n'est pas quelque chose de premier. Il faut que l'intelligence connaisse Ens Naturae pour que Ens Ratione apparaisse. C'est pour ça qu'il n'y a pas un tout premier global qui se divise en Ens Naturae et Ens Ratione. C'est au contraire, à partir de l'Ens Naturae, que mon intelligence commence à connaître et qu'elle relie au-dedans d'elle-même l'ens rationis. C'est pour ça que d'une certaine manière, hein, comprenons bien, on dira que l'ens rationis est très proche de l'ens artificiale. L'ens artificiale, c'est-à-dire l'œuvre d'art. L'œuvre d'art n'est pas un être naturel. Ça ne pousse pas une statue. Fameux exemple d'Aristote, hein. Mettez un lit dans la terre, il ne poussera pas des petits lits. Enfin, c'est impossible. Si vous mettez une graine, il pousse une graine. Pour Aristote, c'est le signe de l'œuvre naturelle. C'est en fonction de la procréation. Une œuvre d'art n'est pas source de vie, tandis que la nature est source de vie. Alors là, vous pouvez tout de suite voir. C'est toujours à partir de là qu'il faut.